France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Nous faisons des étapes cette semaine en Seine-Maritime, à chaque ouverture d'édition, en commençant aujourd'hui par un gros projet d'aménagement d'un ancien bâtiment industriel à Ponts-et-Marais. Nous sommes au sud du Tréport et en limite du département de la Somme. La Source, c'est le nom de ce projet, sera un espace de convivialité de restauration qui accueillera des concerts et aussi des animations autour des solidarités locales. Nous appellerons ensuite Valo Dantine, jardinier, formateur à terre et humanisme et auteur d'un manuel sur une étrange technique, la litière forestière fermentée.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Thierry Lambrecq, bonjour.
Bonjour Philippe.
Grâce à vous, nous annonçons la naissance, enfin ça vient d'être inauguré depuis peu, la Source, nouvel espace de coworking, de loisirs et de bien-être à Ponts-et-Marais. Alors c'est un espace de coworking, mais vous n'êtes pas encore connecté, c'est emmerdant ça.
Exactement. Nous attendons la fibre, la connexion à la fibre numérique, tout à fait. Il serait tardé.
J'aime beaucoup votre message. C'est un lieu connecté et déconnectant. De quelle façon on peut se déconnecter à la Source?
Eh bien, tout simplement en franchissant le seuil de la porte, puisque en fait la Source vous permet de vous déconnecter et d'arriver dans une ambiance qui est autre, qui est celle du bien-être, qui est celle de s'immerger en fait dans un environnement qui est très nature, puisque le lieu est bordé par la forêt d'Eux, une forêt domaniale qui est bordée par des étangs. On est au bord d'une piste cyclable. Vous êtes au bout d'un petit chemin. Eh bien, voilà la manière la plus simple de se déconnecter à la Source, qui reste malgré tout un lieu de travail, notamment.
Oui. Avant d'ouvrir le lieu, vous l'avez testé auprès des habitants. Enfin, vous avez testé l'idée.
Tout à fait. Donc, on a décidé de lancer le projet avec une association qui s'appelle les Insolins, qui était à l'origine du projet. Et nous avons en fait décidé d'ouvrir un observatoire à ciel ouvert pendant les 2 mois d'été, de manière à pouvoir jauger l'intérêt, l'attente des personnes qui fréquentaient cette piste cyclable, de manière à pouvoir créer un premier lien social entre l'utilisateur et la Source, et de voir en fait dans quel sens nous devions en fait organiser notre projet pour qu'il réponde à une vraie problématique de territoire et à une vraie attente.
Ouais. Je regarde le fond du programme, ce que vous prévoyez à la Source. Il y a de la culture, il y a de l'environnement et de l'écologie, et il y a des solidarités.
Tout à fait, tout à fait. Le but de la Source, c'est de proposer un certain panel d'événements, d'offres, qui soit justement sur les 3 points que vous venez de citer, autour du bien-être, de l'environnement, de l'humain et également du professionnel. Notre agenda événementiel doit permettre à quiconque, à chacun, de trouver un intérêt, de venir à la Source et de développer lui-même ses propres connexions, ses propres réseaux par rapport à ses centres d'intérêt. C'est un petit peu la complexité de ce type de lieu, c'est d'avoir une offre riche et régulière qui va pouvoir s'adresser à tous.
Ouais. Et quel modèle économique vous avez choisi? C'est une question qu'on pose souvent.
Alors, la première étape de la Source, eh bien, nous allons passer par le statut associatif, qui nous permet de mettre en avant dans un premier temps l'aspect collaboratif du lieu, de voir comment il est possible aujourd'hui en 2021 de pérenniser ce type d'activité dans une région qui était à l'origine plutôt industrielle. Comment on va réussir finalement à prendre ce virage de la modernité, de ce nouveau type de lieu qui est basé sur des valeurs non pas nouvelles, mais en tout cas qui sont intégrées à son fonctionnement, et ça c'est plutôt nouveau.
Alors pendant l'été, vous avez déjà conduit plusieurs chantiers participatifs?
On s'est amusé, entre guillemets, en fait à mettre en place des chantiers participatifs. Alors, les idées de ces chantiers émanent principalement des visiteurs. C'est-à-dire qu'on s'est nourri tout l'été de ce que les gens souhaitaient voir se développer sur le site. Donc, on a eu notamment la création d'un toilette sèche pour personnes à mobilité réduite, Donc on s'est lancé dans ce chantier participatif avec une poignée de bénévoles du jour. On est allé taper à la porte d'une enseigne locale, j'ai du mal pour ne pas les citer, pour savoir s'ils avaient un petit peu de bois cassé ou du rebut et autres. On a réussi à trouver du bois et à partir de ce bois-là, eh bien, on a construit un toilette sèche pour personnes à mobilité réduite. Mmh. Ça, c'est l'un des chantiers. Ensuite, on a réhabilité au niveau décoration l'espace de coworking, où là, on a fait que de la récup. Et ensuite, pour les peintures, eh bien, on a mis un principe de valorisation du temps, c'est-à-dire que les personnes qui venaient participer à la décoration du lieu, eh bien, si elles ont engagé 5 heures de leur temps, elles auront du coup 5 heures de coworking offertes.
C'est pas tout à fait fini. Il y a les travaux d'aménagement qui vont être poursuivis le mois prochain avec l'aménagement de cet espace de coworking au rez-de-chaussée du bâtiment et la création d'une épicerie solidaire. C'est le début d'une nouvelle vie à la source de Ponts et Marais. Il y a une page Facebook, la source de Ponts et Marais. Et puis il y a une page aussi, si vous voulez connaître, les Insolins, les 4 personnes qui, venues de Paris, ont soumis à Thierry le projet avec qui il est parti, main dans la main pour créer la source. Merci et longue vie à la source, Thierry.
Merci beaucoup, Philippe. Et je me permets de rajouter que le site internet est en cours de conception et devrait voir le jour très très prochainement sur www.source-ressources.fr.
France Inter, carnet de campagne.
Une proposition originale, encore une, en provenance de Seine-Maritime. Il s'agit de Cover Dressing, association havraise dont la mission est de réaliser des expertises complètes des modèles de vêtements du prêt-à-porter féminin. Elle est partie du principe que le monde de la mode conçoit ses réalisations pour des corps très normés. Du fait, je cite, elle prescrit les tendances, conforte les normes et exclut bon nombre de personnes qui n'entrent pas dans ces codes. Il s'agit de personnes handicapées ou âgées ou malades ou encore victimes de difficultés fonctionnelles. L'association lutte contre cette discrimination qu'exerce le manque d'ergonomie du vêtement de mode. Son outil est un label, le label Bien à Porter, qui identifie les vêtements les plus confortables et les plus ergonomiques. Lorsque nous avions reçu le message d'alerte du collectif à l'origine de l'association, il était fait mention d'une première expertise réalisée à partir de 2000 essayages de vêtements par des personnes concernées. Le site de l'association ouvre sur 3 axes: les vêtements labellisés, les idées partagées par la communauté des utilisatrices et les vêtements triés par marque. Mais l'association ne s'arrête pas aux tests de vêtements puisqu'elle collabore en ce moment avec des marques dans le cadre d'un programme de recherche et de développement afin de créer des prototypes qui répondront aux différents profils d'habillage. Bienapporter.com, c'est vraiment une très bonne idée. Valo Dantine, bonjour.
Bonjour Philippe.
Prénom étrange qui nous vient de nos voisins belges. Vous êtes originaire de Liège, enfin de la banlieue métallurgique de Liège. Vous avez abandonné la banlieue, la métallurgie. Vous avez gardé le bois avec Liège en vous penchant sur le sort de nos forêts. Vous êtes auteur du manuel de la litière forestière fermentée, on va expliquer. Coédité Terre et Humanisme, édition du Rouergue. Vous êtes engagé auprès de Terre et Humanisme et vous avez mis au point une technique cubaine qui s'appelle, je vais le dire avec l'accent, Microorganismos de Montaña.
Tout à fait. C'est une technique qui est utilisée depuis déjà 20 ou 30 ans par de nombreux paysans en Amérique centrale. Elle a été particulièrement développée à Cuba où il y a eu le plus de recherches.
Oui.
Et là, il y a un ami qui a une femme cubaine qui a fait beaucoup de voyages là-bas et qui a fait un petit travail pour Terre et Humanisme pour voir comment l'agroécologie avait pu redresser la catastrophe alimentaire qui avait eu lieu suite à l'embargo. Et dans toutes les techniques agroécologiques qu'ils avaient faites, l'ombricompostage, l'agriculture urbaine, etc., il y avait cette petite recette très intéressante de micro-organismos de Montagna, ce qu'il a ramené en France. Mmh. Donc nous avons fait les premières préparations dès 2013, et nous l'avons testé à gauche, à droite, et vu que ça nous semblait quelque chose d'intéressant, nous l'avons développé par la suite.
Oui. Vous partez d'une réalité, d'un constat, Valo, c'est qu'il n'y a pas un seul sol forestier, mais il y en a plusieurs. Certains qui n'assument pas ce phénomène de maturation, de fermentation, et d'autres qui l'assument bien. Et donc vous avez, à partir de cette technique cubaine, adapté ce que vous appelez une préparation lithophère.
Oui, À Cuba, ils parlaient de micro-organismes de montagnes, parce qu'en fait, les forêts sont dans la montagne et les cultures plutôt dans les plaines. Toute la technique repose en fait sur la litière forestière, et comme nous, on peut la faire aussi bien dans les grandes plaines qu'en montagne ici. Pour ne pas que ce soit trop restrictif, on parle de litière forestière, et puis de litière forestière fermentée, parce qu'il s'agit de préparer une lactofermentation qui multipliera le nombre de micro-organismes présents dans la solution.
Vous dites que dans une cuillère à café de ce lifofer, il y a 200 000 algues, 300 000 amibes, 400 000 champignons et des milliers de milliards de bactéries.
C'est dans un gramme de sol. Un gramme de sol contient tout ça. Et dans la litière forestière aussi. Nous avons commencé les premières analyses, mais nous n'avons pas encore terminé par manque de moyens. Nous devrions avoir des études métagénomiques qui nous renseigneront plus très bientôt.
Là, vous faites des tests, donc il y a une fermentation qui dure assez longtemps, et ensuite on a un produit qui est liquide et qui est adaptable à tous les terrains.
Oui, au début c'est une première fermentation solide, on prépare une mère, c'est une fermentation assez longue qui dure un mois. Et la préparation mère nous servira à faire de multiples fermentations liquides au cours de la saison, au fur et à mesure de nos besoins, liquides qu'on diluera encore. Mmh. Et qui sont adaptés à tous les sols, c'est-à-dire qu'on va faire des préparations endogènes avec les micro-organismes locaux pour chaque sol particulier. Dans l'argile calcaire, on aura certaines préparations, dans les Cévennes, on aura une autre préparation.
Et vous allez commercialiser ce produit ?
Non, ce n'est pas du tout notre souhait. Notre souhait, c'est de transmettre la technique au plus grand nombre, de manière à que se créent de petits groupes locaux où chacun pourra produire sa préparation. Je dis petit groupe parce que la première préparation mère nécessite quand même un petit peu d'effort et de préparer une certaine quantité qui serait peut-être un petit peu trop pour les jardiniers. Un agriculteur, par contre, pourrait le faire pour lui-même. Après, de faire en petit groupe de jardiniers, intéressant aussi, c'est de pouvoir échanger sur d'autres techniques agroécologiques autour du jardin, de se renseigner des petits trucs et astuces, de partager les frais qu'il y a pour préparer la solution, ou bien de troquer de la semence, etc., en faveur du contact social à travers le jardin.
Les tests sont très concluants, donc vous les avez testés sur des tomates, des salades. Cette méthode permettra une meilleure vigueur et une meilleure résistance des plantes aux maladies et aux insectes ravageurs.
Oui, le but c'est d'abord travailler sur les sols et sur les matières organiques, faire en sorte que la dynamique des sols fonctionne mieux. Et donc les plantes qui vont vivre sur un sol bien vivant seront beaucoup plus vigoureuses et beaucoup plus résistantes à tous les aléas qui peuvent leur arriver au cours de saison.
Le livre est vraiment le manuel pratique, hein, c'est-à-dire que vous avez la constitution de la litière forestière, et puis son utilisation, ce mode d'action, ses modes d'épandage, les usages et les dosages, sachez aussi qu'elle présente un intérêt pour la repousse de l'herbe dans les pâturages, ainsi que pour l'assainissement de l'eau. C'est assez remarquable. Il y a le livre pour vous, avec la préface de Marc Dufumier, manuel de la litière forestière fermentée, donc aux éditions du Rouergue avec Terre Humanisme, et puis des liens aussi si vous voulez en apprendre davantage sur cette technique et cette méthode. Merci Valo.
Merci à vous Philippe.
Avant de rejoindre Nicolas Stoufflet, je vous donne le plan de vol de cette fin d'année, parce qu'on arrive cette semaine au dernier mois de l'année. Nous serons dans l'Oise prochainement, en Ariège, en Haute-Garonne, et nous débuterons d'ailleurs, je peux vous le dire, le mois de janvier par le département du Tarn. Merci pour vos messages